Alors, André, on y va avec ces noms de lieux qui suscitent la curiosité.
Absolument. Ben, je veux tout d'abord mentionner que l'ouvrage « Noms et lieux fascinants du Québec » m'a été très précieux pour rédiger cette chronique-là.
Ah oui? C'est un livre qui a été écrit par qui?
C'est un document disponible sur le web.
Ah bon?
C'est une collaboration gouvernementale. Maintenant, c'est pas très clair non plus au niveau de la façon dont c'est écrit, cette collaboration-là, mais bon. On peut dire que c'est en partie gouvernemental.
Nom et lieu fascinant du Québec. Vous commencez par la Guadeloupe. On dit-tu Guadeloupe
c'est
ou Guadeloupe?
Les deux se disent, je crois. Mais c'est en Beauce, hein? La Guadeloupe Beauce.
OK, vous n'êtes pas dans les Caraïbes.
Pas du tout. C'était autrefois nommé Saint-Évariste Station. Hein? Et le nom, la Guadeloupe, a été choisi en 1945 suite aux fêtes du couronnement de la Vierge de la Guadalupe au Mexique. En l'année 1945. Et il y avait un cardinal très connu à l'époque qui était présent à cette fête et qui a décidé à son retour que la paroisse changerait de nom pour s'appeler dorénavant Notre-Dame de la Guadeloupe. Et ça a entraîné le changement du nom du village également.
Bye-bye Saint-Évariste
Station. Voilà. On poursuit avec les Méchins
Les Méchins.
Entre Matane et Sainte-Anne-des-Monts, hein, les Méchins. C'est un nom d'origine amérindienne, comme il y en a une tralée au Québec, comme on dit. Et c'est selon une légende Micmac. Il y a un génie du mal qui hantait la montagne des Méchins. Il y a un monstre nommé Matsi qui s'amusait à pourchasser les habitants avec un bâton de la grosseur d'un arbre. Ça devait être assez épeurant,
merci. Oui, ça. On a des images.
En langue Micmac, Matsi, ça veut dire méchant.
Ah.
Et le mot aurait été déformé en méchant par les colons français de l'époque. Et vous savez comment se nomment les habitants des méchants? Ce qu'on appelle leur gentilé, n'est-ce pas?
Dis-moi que ce n'est pas les méchinois.
Les méchinois.
Les méchinois.
Les méchinois.
Oh, c'est vraiment rigolo.
Tout à fait,
ça.
C'est vraiment, oui, très rigolo. Plus à l'ouest, dans le Bas-Saint-Laurent, on s'en va à Trois-Pistoles. Il faut d'abord savoir que la pistole, c'est le nom d'une ancienne pièce de monnaie qui avait cours en France au début de la colonie. Mais pourquoi trois pistoles dans ce cas-là?
Ouais.
Eh bien, on dit que vers 1620, une chaloupe se serait échouée en face d'une rivière aux eaux limpides, qui est en fait l'actuelle rivière des Trois Pistoles, qui est tout près de l'embouchure du village. Désirant boire de cette eau, il y a un matelot qui aurait échappé son gobelet et qui se serait écrié « Voilà trois pistoles de perdu ».
Ah oui, c'est une jolie histoire.
C'est une jolie histoire.
C'est un joli village aussi, c'est celui de Victor-Lévis-Beaulieu.
Oui, tout à fait.
Dégelis. Ou Dégelis.
Oui, Dégelis. En fait, je ne sais pas si les gens là-bas disent Dégelis. Moi, j'ai toujours dit Dégelis. Ouais. Dans la vallée du Témiscouata, hein, ça, c'est entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick. Dégelis, ben, ça fait penser à dégel. Hein.
Mm-hmm.
Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est proche de ça. En fait, la ville est située en bordure de la rivière Madawaska, face à une section qui ne gèle jamais. Et en vieux français, ben, un dégelis, ça veut justement dire une portion de rivière qui ne gèle pas. Et non une portion de rivière qui dégèle, il faut faire attention.
OK, donc c'est logique.
C'est logique. Encore plus à l'ouest vers Québec, on s'arrête sur la rive nord du fleuve au Cap Tourmente. Un nom qui apparaît pour la première fois en 1608 sous la plume de nul autre que Samuel de Champlain, qui notait la propension des eaux du fleuve à s'agiter sous le vent à cet endroit. Et je vais vous lire un extrait de ses écrits.
En vieux français?
Je vais vous le lire adapté en français actuel, parce que mon vieux français n'est pas tout à fait au point. Alors, de l'île aux coudres, côtoyant la côte, fume à un cap que nous avons nommé le cap de Tourmente, qui en est à 7 lieues, et l'avons ainsi appelé d'autant que pour peu qu'il fasse de vent, la mer y élève comme si elle était pleine.
Belle description.
Voilà, belle description.
Il y a un film aussi, Cap Tourmente, si mon souvenir est bon, c'était avec Élise Guilbeault et Roy Dupuis.
Ça fait longtemps de ça.
Oui.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Allons faire un tour à Montréal, dans le quartier Hunsic.
Bien oui.
À l'été 1625, deux hommes se noient dans la rivière des Prairies, près de l'endroit qui s'appelle aujourd'hui le rapide du Saut au Récollet. Ça, pour ceux qui connaissent un petit peu le nord de Montréal, c'est tout près du pont Papineau-Leblanc, en bordure du parc de la Visitation. Endroit magnifique, s'il en est, le parc de la Visitation. C'était le parc de mon adolescence, je dirais.
Ah oui?
J'allais le souvent.
Ouais, il y a un petit... il n'y a pas des rapides, là, mais une sorte de chute.
C'est le saut
au
Récollet.
Le
ça fait partie de ce qu'appelle le saut au Récollet.
Un bistrot. Je ne sais pas si c'est encore ouvert.
Ouais.
C'est mon quartier, moi, Hunsic.
Oui,
ben,
c'est
mon
un magnifique quartier.
Ouais.
Alors, l'un des deux hommes qui s'est noyé portait le surnom Huron Dansik, qui signifie « petit et frétillant », en raison, semble-t-il, de son agilité et de sa vivacité. Et c'est donc en sa mémoire que le nom Dansik a été donné à ce qui était autrefois un petit village, mais qui est devenu aujourd'hui, évidemment, un quartier de la ville de Montréal.
Oui, et ça s'écrit Ahuntsic.
Oui, A-H-U-N-T-S-I-C.
Maintenant, l'île aux allumettes.
Sur la rivière des Outaouais, tout près de la frontière ontarienne. Alors, deux hypothèses existent sur l'origine de ce nom. D'une part, en 1686, le chevalier de Troyes conduisait une expédition militaire sur l'île, puis il raconte que c'est un père jésuite qui aurait oublié sur l'île une boîte d'allumettes qu'il avait toujours avec lui pour faire du feu.
Bof.
Bon.
Je sais pas. Hein?
Ben, c'est ça. D'autre part, longtemps après l'expédition, il y a une autre légende qui apparaît, qui mentionne que le nom de l'île proviendrait plutôt d'un roseau poussant sur les berges et que les colons utilisaient pour faire du feu comme les allumettes.
C'est plus poétique.
Ouais.
Ouais.
Je trouve ça, moi aussi. J'aime mieux la deuxième.
On
va dire que c'est la deuxième.
On va dire ça.
Au-delà des villes et villages, d'autres noms suscitent la curiosité, des noms qui ont été donnés à des lacs, des rivières, des îles, comme par exemple le lac J'en peux plus.
Non.
Oui, tout à fait. Ça ne sert à pas, comme on dit en
France. Du lac J'en peux plus.
Ah oui?
Non, mais c'est drôle si quelqu'un
oui, tout à fait.
Dit ça.
Oui. Alors, petit plan d'eau au sommet d'une colline près de Saint-Sauveur-des-Monts, dans les Laurentides. Un nom qui est donné en raison de sa position élevée, de son éloignement et de la difficulté à l'atteindre, on s'en doute un petit peu. On raconte qu'un bûcheron voulant se rendre au lac, ce serait écrié à bout de souffle « J'en peux plus ».
Non.
Et c'est de là que ça vient.
OK. C'est pas « J'en peux plus », c'est « J'en peux plus ».
C'est ça.
Ouais. Est-ce qu'il y a un lac « Je t'aboute »
Ah, un jour, faudrait chercher, mais il y en a ça ne surprendrait pas. Tellement. Il y a aussi le lac de la Brimballe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais qu'est-ce qu'une brimballe au juste? C'est une perche qui permet de s'adonner à la pêche sur la glace. On dit aussi brinqueballe ou brinqueballe.
Ah oui.
Ouais. Et on termine en beauté avec nul autre que l'île Mokmok.
Ah oui.
Elle existe, l'île Mokmok.
Tu vas où en vacances aux îles Mokmok?
Ah, mais c'est l'île au singulier,
bon.
Dans ce cas-ci. C'est au lac du Parquet, près de les municipalités même nom, au nord de Rouyn-Noranda, en Abitibi. C'est vrai que ça, pour nous, Montréalais, ça nous semble très loin. Mais tout est relatif.
Hein? Bien, tout est relatif.
Pour les gens de Val-d'Or ou de Rouyn, c'est peut-être pas si loin que ça, l'île Mokmok.
J'ai vécu 5 ans en Abitibi, alors je peux vous dire que tout est relatif.
Tout est relatif.
Pour eux, Montréal, c'est loin.
Oui, bien c'est ça.
Et puis, vous terminez cette chronique avec 3 mots et expressions liées au repas.
Tout à fait. Pique-niquer, hein, un verbe...
Pique-niquer?
Pique-niquer, apparu au 17e siècle. Dans le langage populaire, on disait faire un repas à pique-nique. Le mot « pique », ben, il vient du verbe « piquer », mais dans le sens de « picorer », comme les poules.
Pas voler, là. Ouais,
non, non, comme les poules qui picorent
picosser,
des graines.
Picosser, picorer.
Oui, picosser, c'est autre chose. Là.
OK.
Tu sais, on va voir l'étymologie de picosser bientôt.
D'accord.
Ensemble. Et il y a aussi la nique. La nique, c'est une petite chose sans valeur. La réunion des deux termes, ben, ça veut dire justement picorer des petites choses apportées par chacun pour un repas convivial en extérieur. Et la pratique du pique-nique ben, est plus ancienne que le terme lui-même. Parce que c'était déjà courant, semble-t-il, de pique-niquer au Moyen Âge. Les paysans amenaient lorsqu'ils travaillaient dans les champs, ils amenaient des petits repas comme ça, ils prenaient le temps de faire un petit repas champêtre. C'est ce qu'on dit, ça remonte à loin, mais semble-t-il. Et au 19e siècle, ben, le pique-nique devient même une référence culturelle. Hein? Dans les œuvres des impressionnistes, entre autres, on pense au Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, qui est un tableau célèbre.
Magnifique.
Donc, c'était une référence culturelle de pique-nique.
Alors, ça s'en vient. Hein? L'été est à nos portes. Gardons espoir, même si aujourd'hui, ça a l'air plus de l'hiver.
Ça n'a pas l'air de ça.
Mais on pourra pique-niquer bientôt. Manger sur le pouce.
Oui, ça apparaît au 19e siècle. Hein? Ça fait référence aux ouvriers puis aux soldats qui, pendant leur pause repas, utilisaient un couteau pour couper leur pain et leur nourriture, souvent un saucisson. Hein? Ils mettaient ensuite sur leur pouce... et dans leur bouche, en s'aidant de leur pouce. On a vu cette image-là souvent dans des films.
Ah oui, avec un couteau qu'on appelle opinel.
Un opinel, oui, ouais, qui est une marque, là, mais c'est un couteau à cran d'arrêt là, qu'on ouvre, le schlack, comme ça. Et le repas était pris, évidemment, en très peu de temps, ce qui a donné naissance à l'expression « manger sur le pouce » pour dire « manger rapidement ».
Et finalement, on s'en va au casse-croûte. Pour casser la croûte, ça n'a rien à voir nécessairement, je ne sais pas.
Oui, sûrement que ça a à voir. L'expression comme telle « casser la croûte », ça date du 19e, ça aussi. On disait « casser la croûte avec quelqu'un » à l'origine, Donc, partager son pain avec quelqu'un, manger en sa compagnie. Parce que le pain, à l'époque, était vraiment l'aliment presque central, surtout pour les gens d'origine modeste. Le pain a été compris plus largement comme étant la nourriture ou le repas pris au sens large par la suite. Casser, dans le sens justement de casser la croûte pour en arracher un morceau ou mastiquer la croûte du pain en question.
La croûte et la mie.
Tout à fait. Donc, casser la croûte. Essayer de rentrer dans le langage populaire.
Bon. Alors, est-ce que vous allez casser la croûte bientôt?
C'est un peu tôt encore.
Oui.
Mais à midi.
Je vois une belle baguette, là, pour casser
encore
la croûte.
Encore fumante.
Pique-niquer.
Oui.
Mais ne pas manger sur le pouce.
Autant que possible. Ouais. Autant que possible.
Bon, mais André, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant les noms de lieux et les expressions. Et je rappelle que vous avez été grandement inspiré par l'ouvrage « Noms et lieux fascinants du Québec ».
Tout à fait.
Merci.
Disponible en ligne.
On va se retrouver dans 2 semaines.
Dans 2 semaines.
Portez-vous bien.
À bientôt. Bye-bye.